Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Dans la rubrique Éclairage, nous allons parler aujourd'hui de la mission de recherche Droit et Justice. Cette mission de recherche Droit et Justice a été créée à l'initiative conjointe du ministère de la Justice et du CNRS en vertu d'une convention de 1994. Elle est constituée en GIP et elle a un conseil d'administration, un conseil scientifique. Ses objectifs sont très intéressants parce qu'ils réunissent à la fois des universitaires, des chercheurs, des gens de doctrine et de réflexion sur le droit et des praticiens, c'est-à-dire des magistrats, le Conseil national du barreau, le Conseil supérieur du notariat et également des membres du Conseil national de la recherche scientifique. Ces objectifs sont de contribuer au développement de la recherche dans le domaine du droit et de la justice et d'essayer de formuler des projets ou des objectifs qui contribueront à la modernisation et à la réforme de la justice. Ces travaux sont publiés régulièrement, notamment à la Documentation française, et parmi ses membres, il y avait François Théret, qui a d'ailleurs présidé son conseil scientifique. Bonsoir François Théret.
Bonsoir.
Bien. Pouvez-vous nous décrire le travail de cette mission de recherche Droit et Justice ?
Oui, il s'explique par un rapport au passé, parce que dans les années déjà 1965-1970, on s'était rendu compte à la chancellerie de la nécessité de développer les travaux de sociologie législative et plus largement de sociologie aussi judiciaire ou juridique. Or, il n'existait pas à l'époque de structure tout à fait satisfaisante qui puisse à la fois mettre en relation les pouvoirs publics et même des interventions aussi universitaires ou même de praticiens du droit. C'est à cette fin, à cet effet, que la mission Droit et Justice a été créée sous la forme d'un GIP en 1994. J'ai à l'époque, dans les débuts de cette opération, présidé le conseil scientifique. Le directeur de ce GIP, c'était mon collègue Guillaume Drago, le fils de notre confrère de l'Académie des sciences morales. Et on avait prévu un certain nombre de pistes de réflexion et de recherche, notamment dans le cadre des préoccupations de pure sociologie judiciaire surtout, et aussi dans le cadre de ce qui existe depuis plus longtemps en sociologie pénale ou en criminologie, et du côté aussi des analyses sociologiques de la délinquance et des réformes législatives, y compris en matière de procédure pénale.
Notamment en procédure pénale et en droit pénal, il semblerait qu'il y ait un gros travail de réforme à faire. Est-ce que la mission contribue à déterminer les objectifs de ces réformes ?
Oui. Encore que la définition même de du cadre de travail en question soit difficile, parce que nous sommes tributaires de pesanteurs du passé et qui sont assez importantes dans la mesure où on oppose toujours, à tort ou à raison, les procédures inquisitoires dans lesquelles on donne aux juges des pouvoirs d'initiative importants en matière pénale, c'est le système au fond européen, et la procédure accusatoire qui est davantage reconnue dans le monde anglo-américain. Cela dit, les réformes de la procédure pénale, on en parle depuis 2 siècles, et tout compte fait, on s'aperçoit que les différences sont moins importantes qu'on ne le pense entre les deux types de procédures. Il n'y a jamais de procédure inquisitoire pure, ni de procédure accusatoire pure. Il y a toujours des transitions entre les deux. Mais le fait de relever de la pensée procédurale française et européenne, qui consiste avant tout en matière pénale à chercher la vérité, s'accorde beaucoup mieux avec le système donnant des pouvoirs importants aux juges que le système anglo-américain qui consiste surtout à découvrir l'équité, ce qui donne d'ailleurs plus de mouvance, plus d'imprécision aux démarches de la procédure pénale.
Oui, dans le domaine de la procédure notamment, la France et la justice française se font régulièrement épingler par la Cour européenne des droits. Est-ce que vous pensez que c'est justifié ?
Vous savez, c'est un problème très important. Il faut reconnaître d'ailleurs que ce n'est pas tellement en matière de procédure pénale. que la France se fait assez régulièrement condamner, et elle se fait condamner le plus souvent par le fait que les procédures étant trop longues, la Cour européenne des droits de l'homme estime qu'il y a atteinte aux exigences d'un procès équitable. Cela dit, la procédure, la Cour européenne des droits de l'homme, de sauvegarde des droits de l'homme, se mêle souvent de ce qui ne la regarde pas, que son existence peut être mise en relation avec une interrogation suprême. Tout juge, dans un régime judiciaire normal, a pour supérieur dans le continent européen le législateur. Le malheur, c'est que la construction de l'Europe s'est accompagnée de la création de juridictions sans contrôle de ces juridictions par l'effet d'un législateur qui leur serait supérieur.
Vous pensez que c'est un malheur, la
création ? Tout à fait. Tout à fait, car la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas représentative des opinions des divers États, qu'elle outrepasse ses pouvoirs, qu'elle se mêle des problèmes qui concernent par exemple le transsexualisme ou d'autres problèmes qui ne relèvent pas véritablement de la défense des droits de l'homme, et que de proche en proche, elle est en train d'envahir les pouvoirs des juridictions nationales dans des conditions et à travers des arrêts dont le caractère monstrueux et filandreux dans le style même manifeste l'introduction des méthodes anglo-américaines dans la Constitution et dans l'existence même de toute la tradition romano-germanique qui a fait de l'Europe le modèle juridique du monde.
Oui, d'ailleurs, l'innovation juridique reste très largement européenne dans les différents pays européens, je dirais.
Oui, l'innovation juridique est importante à condition qu'elle ne soit pas uniquement la production d'idéologues et de technocrates, comme on a pu le constater à propos de telle ou telle constitution dont il ne faut pas, pour ma part, regretter la mort. Mais en réalité, ce n'est pas de ce côté-là qu'on voit les modèles européens. Les modèles européens se situent bien davantage en droit privé qu'en droit public ou international. Et ces modèles, progressivement, se rapprochent les uns des autres, sans que pourtant on abandonne, on renie les traditions culturelles du rationalisme européen de l'Occident depuis le XVIIe siècle.
Parmi les axes déterminé par cette mission, il y avait la réforme du droit de la famille et du droit social. Est-ce que vous pensez que c'est un volet important du fait de l'évolution assez grande de nos sociétés en Europe actuellement ?
Oui, oui. Traditionnellement, on a considéré que le droit international, privé ou public, surtout privé, que le droit même des lois uniformes en matière de chèques, de lettres de charges, que tous ces droits se rapprochaient en Europe, surtout dans le domaine du droit des obligations. Il y avait eu d'ailleurs un code franco-italien des obligations qui avait été élaboré entre les deux guerres mondiales et qui était excellent. Aujourd'hui encore, des efforts de rapprochement des législations en matière contractuelle sont importants et positifs. Alors en ce qui concerne le droit de la famille, pendant longtemps on a considéré que cette démarche était beaucoup plus difficile, que les pays étaient plus attachés à leur structure familiale. Depuis que dans les années 50 a été créée la Commission internationale de l'état civil à Strasbourg, très largement les droits des États européens se sont rapprochés les uns des autres, peut-être les uns par les autres, sans qu'on puisse considérer qu'il y ait un foyer à partir duquel se soit développé tel ou tel modèle de droit de la famille. Cela étant, on voit à partir des années 60, à partir de la décennie 60, une demande de réforme profonde dans tous les États du droit de la famille. Ça s'est manifesté, vous voyez, la décennie 60, c'est celle qui aboutit à 1968. Et 1968, c'est un tournant capital.
Considérable.
Capital.
Oui.
Or, c'est dans cette décennie 1960-1970, disons 1960 même jusqu'à 1975, que la hausse du nombre des divorces a été considérable, mais dans tous les États européens. C'est pas propre à la France. La France, on est passé de 14 couples, de 1 couple sur 14 qui divorce, à 1 sur 3 ou 1 sur 2 en 15 ans. le nombre des enfants naturels, qui était de 6 sur 100 naissances, est devenu, à l'heure actuelle, 50 sur 100. Alors, il y a eu toute une évolution des mœurs. Et alors, pratiquement dans tous les États européens, la législation de la famille s'est orientée dans un sens de libéralisation du droit de la famille. Quant au droit de la femme par rapport au mari, quant au droit des époux par rapport aux enfants, on est passé de la puissance paternelle à l'autorité parentale, ce qui est tout à fait autre chose. Et finalement, on voit que le droit de la filiation et le droit du mariage ont été complètement bouleversés à une certaine époque. Certains auteurs disent que lorsqu'en 1792, on a introduit le divorce en France, c'était pour faire plaisir aux protestants. Puis quand en 1884, on a maintenu la séparation de corps, c'était pour faire plaisir aux catholiques. Et qu'en 2004, quand on a introduit une sorte de divorce par répudiation, mais c'est pour faire plaisir aux musulmans. Voilà l'évolution du droit qui n'est pas seulement donc d'origine européenne, mais aussi d'origine confessionnelle.
Est-ce qu'on peut considérer qu'en Europe, on a une mosaïque, je dirais, de systèmes juridiques et judiciaires, mais qui tendent à converger vers un système unifié, où bien chacun garde jalousement son originalité?
Vous voulez parler pas seulement du droit de la famille,
non,
c'est en général,
oui,
les systèmes...
Du droit social, en
du
général.
Du droit social. Oh, vous savez, quand il y a des conflits, la manière de résoudre les conflits n'est pas la même suivant qu'on envisage les Anglais, les Français ou les Allemands. Les Anglais résolvent tout par des contrats. Les Français résolvent tout par des procès. Et les Allemands résolvent tout dans une société beaucoup plus holiste et individualiste que la nôtre par l'effet de la pression sociale des groupes sur le comportement des particuliers.
Dans cet axe, est-ce que vous pensez que les nouveaux procédés de conciliation ou de résolution des conflits, comme les médiateurs, les arbitrages, les commissions qui ne sont pas purement judiciaires, donnent une nouvelle teinture aux droits ou aux relations juridiques des particuliers ?
Il est encore difficile, c'est même encore un peu tôt finalement, pour se prononcer sur cette matière. Je crois que cela dépend tout à fait des matières à propos desquelles la médiation, l'arbitrage, la conciliation se développent. On parle beaucoup de ces procédés en matière commerciale, en matière du droit des affaires, et je crois qu'ils ont une importance grandissante. Le nombre des arbitrages qui se développent dans les grosses affaires d'arbitrage en matière d'affaires, en matière de commerce, de négoce, sont importants. Alors, en revanche, je ne suis pas sûr encore que l'arbitrage en matière familiale se développe de manière satisfaisante devant les tribunaux. Je crois que là, il y a encore beaucoup à faire et il ne suffit pas, par exemple, qu'un divorce, par exemple, se résolve par consentement mutuel pour que l'on puisse croire que les difficultés qui sont inhérentes à la dislocation du mariage ne se manifestent pas quand même. Et d'ailleurs, c'est l'une des explications d'une des réformes récentes, même du droit des successions et des libéralités, prévoyant notamment des possibilités même de suppression tout de même de certaines exigences judiciaires.
Une dernière question, François Théré. Dans le cadre des trois pouvoirs traditionnels, l'exécutif, le législatif et le judiciaire en droit français n'est qu'une autorité. Et cette autorité, quelquefois, a des rapports tumultueux avec le pouvoir politique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh, beaucoup de choses, beaucoup de choses. D'abord, à partir de votre question, vous parlez des trois pouvoirs. C'est ce qui veut dire, vous pouvez penser au pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Et vous remarquerez que lorsque généralement dans la presse, aux radios, dans les médias, on parle de ces trois pouvoirs, on a le droit à l'évocation de Montesquieu. Montesquieu que l'on cite souvent, qu'on ne lit jamais. Car si Montesquieu a développé la théorie des trois pouvoirs, c'est pour considérer que ces trois pouvoirs devaient être distingués les uns des autres. Mais il n'a jamais dit que le pouvoir judiciaire devait être indépendant par rapport au pouvoir exécutif ou au pouvoir législatif. Il a dit qu'il était chargé d'exécuter les lois. Tout comme le pouvoir exécutif est soumis au législatif, le pouvoir judiciaire est soumis car il doit exécuter les lois. Et alors c'est la raison pour laquelle, devant des abus de tous ordres, devant le fait qu'une justice doit être en accord avec l'opinion publique, mais aussi avec le pouvoir politique, je m'avance légèrement, qu'on a fait valoir que dans la Constitution de 1958, c'est à dessein que c'est une autorité. Une autorité, ce n'est pas un pouvoir. Et ça oblige à s'interroger sur le concept d'autorité. Et on est bien obligé, à ce point, de remonter à l'histoire, à la philosophie, à la pensée. Oui. L'autorité ne vient pas de autoriser. J'ai entendu dire des spécialistes des sciences politiques en disant c'est pareil, puisque autorité, c'est autoriser du tout. Oui. Du tout. Autorité, cela vient de augere, le verbe latin. Et augere veut dire augmenter. Ce qui est très clair dans le monde romain, c'est que le pouvoir législatif, c'est le peuple romain, populus romanus, et que l'autorité qui lui est ajoutée lui vient d'ailleurs comme supplément à ses décisions, comme label de ses décisions qui provient de l'attitude du Sénat du peuple romain. Mais c'est pas lui qui fait la loi, c'est lui qui donne l'autorité à la loi faite par les autres. Eh bien, l'autorité judiciaire est là pour ça aussi. C'est pour ça qu'on a employé ce mot. Et il est vrai qu'ici, c'est pas seulement aux juristes qu'il importe de s'expliquer là-dessus, mais c'est aux philosophes et aux spécialistes de philosophie politique ou juridique ou philosophie générale tout court. Et notamment, je pense à tout ce qu'a écrit Hannah Arendt sur l'autorité, à tout ce qu'a écrit Kojève sur l'autorité, à ce qu'a écrit aussi un auteur italien très remarquable actuel, Agamben.
Est-ce que vous pensez que le travail de mission de recherche, de la mission de recherche droit et justice, est un travail prospectif, intéressant et constructif de l'avenir?
Il est très intéressant et lorsque le 10e anniversaire du GIP a été célébré, j'ai participé aux travaux et à la rencontre qui avait eu lieu d'ailleurs à la Sorbonne. C'est d'ailleurs sous la présidence d'un membre du Conseil d'État, Aguila, que les travaux se développent. Je pense qu'ils sont très utiles. Je pense qu'ils sont très utiles, mais qu'ils sont encore à développer dans certains domaines, et aussi du point de vue de leur diffusion qu'ils font problème. Alors, du point de vue de leur domaine, j'attends toujours que l'on puisse développer davantage une sociologie de la justice, une sociologie judiciaire, non seulement à partir de l'outil statistique qui existe, mais à propos aussi d'enquêtes d'opinion, ce que pense l'opinion par rapport à la justice, d'autant plus qu'il y a un développement considérable du contentieux et que le développement considérable de ce contentieux n'est pas véritablement examiné de manière sérieuse. En tout cas, pas du tout par l'Institut des hautes études sur la justice, qui est un repère d'inutile.
Oui, c'est un domaine
mais
un
vous
peu
allez
pour...
couper, bien. Alors, bien entendu, j'ajouterai la deuxième critique. Tient au fait qu'on ne les connaît pas assez,
oui.
Ces travaux. Ils ne sont pas assez exploités. Et je veux dire qu'ils existent. Il y a même des rapports qui ne sont pas publiés. J'en ai dirigé pas mal, un certain nombre, quand je dirigeais le laboratoire de sociologie juridique. Et ils finissent dans les tiroirs. Alors, les tiroirs des instituts de recherche ou les tiroirs du ministère, on ne les connaît pas bien. Alors, il y en a un certain nombre qui sont publiés par la documentation française. Mais l'accès à ce trésor, qui est important, qu'il faudrait peut-être pas trop miniaturiser. C'est-à-dire de faire des analyses... trop pointu, sur des choses pointues, pourrait être, bien entendu, d'un profit encore grandissant.
Donc, pour se documenter davantage, il faudrait se référer à la lettre de la mission Recherche, Droit et Justice, qui est 3 numéros par an, qui sont diffusés quand même à 10 000 exemplaires, mais c'est un peu modeste. Et puis, si l'on veut en savoir davantage sur la mission Droit et Justice, on peut l'atteindre par Internet sur le site www.gip-recherche-justice.fr. Merci François Théré de cet éclairage.
À bientôt et merci de votre accueil.